Alors, cher Vincent Hubach, donc pasteur du foyer de l'âme et membre aussi du comité de rédaction d'Évangile et Liberté, à toi la parole pour 10 minutes.
Je prends mon coucou. Si tu consommes du fruit de l'arbre, tu mourras. Et la Genèse nous dit qu'effectivement, l'homme a consommé du fruit de l'arbre. Et donc, il va mourir. Le mythe de la Genèse, car c'est évidemment un mythe dont il s'agit, à cet avantage, c'est de pouvoir parler de la vérité à travers des images, car cette vérité nous est souvent inaccessible avec les mots de tous les jours. L'homme va mourir et il prend conscience de cet acte final pour lui. Et je crois qu'effectivement, l'homme, à partir de ce moment-là, a cette spécificité, c'est qu'il sait. Il sait qu'il va mourir et que donc le temps qui lui est imparti est compté et limité. C'est ce résultat de ce qu'on appelle la chute, mais je pense que c'est plutôt plus une élévation que la chute en ce qui me concerne, parce que la conscience de la mort est bien le moteur de la vie. On peut effectivement entrer dans une définition de la vie comme étant la durée, sans avoir bien conscience que le temps passe, et être comme un gros matou sur son coussin. Et c'est vrai qu'on peut vivre ce type de vie, mais je ne sais pas si c'est une vie très intéressante. Peut-être que certains humains vont dans ce sens, mais je ne crois pas que ce soit un très bon sens, je dirais que c'est plutôt une absence de sens. La mort nous fait vivre. La mort nous fait vivre parce qu'elle nous dit « tu n'as pas trop de temps et ce temps, il va falloir que tu l'utilises au mieux ». Alors qu'est-ce que c'est que le temps dans cette manière de voir ? Ce temps, c'est un petit peu la troisième définition qui a été donnée, cette angoisse que l'homme peut avoir, qui le prend et qui le presse, et qui lui fait dire que la quantité des événements qu'il va avoir à négocier, eh bien, cette quantité est limitée. Le temps, pour moi, c'est la succession des événements que nous rencontrons, quelle que soit la nature de ces événements, et qui peuvent être évidemment extrêmement variés. Et cette succession des événements se mesure, en ce qui nous concerne, peut-être plus que par une montre ou un coucou, par la rotation de la Terre sur elle-même et de cette Terre autour du Soleil. Ce qui fait que cette mesure du temps devient très très relative, évidemment. Mais cette succession des événements, elle est là, il faut la négocier. Et donc, je crois que chaque fois que nous sommes face à un acte, eh bien, il faut souvent choisir ou le faire ou ne pas le faire, ou choisir entre plusieurs manières de faire, ou choisir plusieurs types d'actes qui se posent là devant moi dans la vie. Et donc, d'abord, j'expérimente ce que peut être un petit peu la mort par le deuil de ce que je ne peux pas faire. Mais parce que ce temps est court, qu'il est compté, et que je suis bien obligé de vivre ce deuil qui est garant d'une certaine efficacité et qualité de la vie, puisque je choisis normalement ce qui est optimal pour moi, tel que je l'évalue. Je dis que donc, pour moi, la mort a ceci d'intéressant que bien, ça nous, c'est très existentiel, ça nous fait sortir de nous-mêmes pour aller véritablement à une recherche de l'efficacité, de l'optimum. La mort, ça fait choisir, ça pousse à choisir et ça pose aussi le problème de la liberté. J'ai plusieurs choses face à moi qui s'imposent à moi et si je suis bien obligé de choisir, il faut que j'exerce absolument cette liberté et la mort est évidemment là tout à fait comme, je dirais, l'aiguillon de la liberté, de l'individualité qui fait que parce que je suis libre de choisir, eh bien je suis seul face au choix et je choisis in fine et donc mon identité est posée là aussi par cette notion de la mort qui est là. C'est vrai que on pourrait dire que la mort est une sorte de dynamisme finalement qui est là. Il n'empêche que quelle que soit la manière dont on appréhende la mort et le temps qui sont liés, et l'existence qui sont liés évidemment, il faut rester modeste face à l'événement parce que l'événement reste malgré tout de l'ordre de l'inconnu et plus de la foi que du savoir. Et lorsque l'on parle de cette question, il est plus intéressant et peut-être plus sérieux de dire « je crois » plutôt que « je sais ». La mort et le temps sont liés. Ils sont liés mais ils s'inscrivent dans une réalité qui est plus grande, qui est l'éternité. Parce que la mort devient une dégradation de la vie, le temps est pour moi aussi une dégradation de l'éternité. Et c'est là où effectivement il y a quelque chose, les choses vont se nouer. L'éternité est de l'ordre de la plénitude pour moi. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. L'éternité peut se saisir que dans le pendant, un éternel présent. Et l'éternité est ce qui recueille finalement nos actes de vie, ce qui est ineffaçable, ce qui subsiste lorsque plus rien ne reste. Au final, lorsque la succession des événements s'arrête, qu'il n'y aura plus d'événements après dans l'ordre du temps de cette temporalité, eh bien il reste quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, de la visite du ciel sur la terre finalement. Qu'est-ce qui est de l'ordre de cette éternité ? Ici, lorsqu'il y a un baptême, par exemple, que l'on prononce le nom d'une personne, ce nom est prononcé dans l'éternité, c'est ineffaçable. Et lorsque les événements de cette personne s'arrêtent, la succession des événements de cette personne s'arrête, le nom reste quand même inscrit dans l'éternité. Parce que ce nom a été mis en relation avec Dieu qui accueille ce nom, cette personne. Et c'est cela pour moi l'éternité, c'est cette visite du divin dans l'humain, du kairos dans le chronos, finalement, de l'éternité dans la temporalité. Ce qui reste et qui est ineffaçable, ce qui est de l'ordre de la vie au sens fort du terme, c'est-à-dire de l'amour et de la liberté, sachant que l'amour et la liberté sont liés effectivement à la présence de Dieu. Je ne voudrais choquer personne ici, mais c'est une manière de voir qui m'est personnelle et peut-être partagée avec beaucoup d'entre vous. Mais c'est vrai que le mystère demeure au final et que l'on reste avec un point d'interrogation, ce point d'interrogation auquel on essaye de répondre tant bien que mal et qui conduit évidemment à beaucoup de modestie et à l'écoute de l'autre dans la mesure où il peut croire d'autres manières de voir cet après, après le temps qui passe et qui coule. Alors, je voudrais finir puisque Pâques arrive et on communique qu'il y a 3 minutes et que le chiffre 3 est tout à fait symbolique. Eh bien, on va vous parler de la résurrection du Christ. Qu'est-ce que la résurrection du Christ dans cette manière de voir, finalement ? Je crois que Jésus est mort et bien mort, et qu'il est toujours enterré quelque part du côté de Jérusalem. Peut-être qu'un jour, on retrouvera sa tombe avec son corps dedans. Je ne souhaite pas, parce que alors là, ce sera un tel paganisme autour de reliques. Ce sera insupportable. Mais lorsque Jésus meurt physiquement, biologiquement parlant, il reste cet essentiel qui fait sa personne, son identité, c'est l'évangile. La résurrection du Christ, c'est l'évangile. Cet évangile dont on parle encore aujourd'hui et qu'on partage tous les dimanches et peut-être tous les jours. C'est ça qui me semble tout à fait essentiel, parce que l'évangile est de l'ordre de l'éternité. Parce que l'évangile, c'est Dieu qui parle d'une certaine manière à travers Jésus-Christ. Et ça, c'est ineffaçable. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas une époque, ça n'a pas un futur spécial, c'est éternel. Et tout être humain, où qu'il soit, quelle que soit son époque, pourra se saisir de cette parole de vie. Marie a bel et bien vu Jésus vivant au cimetière. Elle s'est retournée une fois, parce que la parole qui résonne dans son cœur à elle l'a retournée. Et ce retournement perdure avant qu'un deuxième retournement ait lieu, qui soit un retournement physique, biologique, qui va la lancer vers la vie. C'est ça la résurrection. C'est lorsque quelque chose d'éternel nous touche, nous retourne finalement et nous pousse à la vie. De même que ses compagnons d'Emmaüs, qui n'ont pas vu Jésus biologiquement parlant, l'auberge est vide, eh bien ils ont bien la conscience que l'éternité les a touchés, que le ressuscité est présent, parce qu'ils ont partagé sa parole et son enseignement sur la route en descendant. Alors ils vont remonter à la vie avec cette parole d'éternité. Finalement, ce qui reste de tout un chacun est ce qui pose peut-être la communion dans l'éternité. On est dans 1 minute. Ouais, c'est ça.